Chapitre 57. La vengeance de Corentin commence. La justice humaine est la justice de Paris, c'est-à-dire la plus défiante, la plus spirituelle, la plus habile, la plus instruite de toutes les justices, trop spirituelle même, car elle interprète à chaque instant la loi, mettait enfin la main sur les fils de cette horrible intrigue. Le baron de Nucingen, en reconnaissant les effets du poison et ne trouvant pas ses 750 000 francs, pensa que l'un des personnages odieux qui lui déplaisait beaucoup, Pacquarozzi, était coupable du crime. Dans son premier mouvement de fureur, il courut à la préfecture de police. Ce fut un coup de cloche qui rassembla tous les numéros de Corentin. La préfecture, le parquet, le commissaire de police, le juge de paix, le juge d'instruction, tout fut sur pied. À 9 heures du soir, trois médecins mandés assistaient à une autopsie de la pauvre Esther et les perquisitions commençaient. Trompe-la-Mort, averti par Asie, s'écria. L'on ne me sait pas ici, je puis me dissimuler. Il s'éleva par le châssis à tabatière de sa mansarde et fut, avec une agilité sans pareille, debout sur le toit, où il se mit à étudier les alentours avec le sang-froid d'un couvreur. « Bon, se dit-il, en apercevant à 5 maisons de là, rue de Provence, un jardin. J'ai mon affaire. »« Tu es servi, Trompe-la-Mort, lui répondit Contenson, qui sortit de derrière un tuyau de cheminée. « Tu expliqueras à M. Camusot quelle messe tu vas dire sur les toits, M. l'abbé, mais surtout pourquoi tu te sauvais. »« J'ai des ennemis en Espagne, » dit Carlos Herrera. « Allons-y par ta mansarde, » lui dit Contenson. Le faux espagnol eut l'air de céder, mais après s'être accouté sur l'appui du châssis à tabatière, il prit et lança Contenson avec tant de violence que l'espion alla tomber au milieu du ruisseau de la rue Saint-Georges. Contenson mourut sur son champ d'honneur. Jacques Collin rentra tranquillement dans sa mansarde où il se mit au lit. « Donne-moi quelque chose qui me rende bien malade sans me tuer, » dit-il à Asie. « Ne crains rien. « Je suis prêtre et je resterai prêtre. Je viens de me défaire, et naturellement, du seul homme qui put me démasquer. » À 7 heures du soir, la veille, Lucien était parti dans son cabriolet, en poste, avec un passeport pris le matin pour Fontainebleau, où il coucha dans la dernière auberge du côté de Nemours. Vers 6 heures du matin, le lendemain, il s'en alla seul, à pied, dans la forêt, où il marcha jusqu'à Bouron. « C'est là, se dit-il en s'asseyant sur une des roches, d'où se découvre le beau paysage de Bouron, l'endroit fatal où Napoléon espéra faire un effort gigantesque l'avant-veille de son abdication. » Au jour, il entendit le bruit d'une voiture de poste et vit passer un brisca où se trouvaient les gens de la jeune duchesse de Lenoncourt-Chaulieu et la femme de chambre de Clotilde de Grandlieu. « Les voilà, se dit Lucien, allons, jouons bien cette comédie et je suis sauvé. Je serai le gendre du duc malgré lui. » Une heure après, la berline où étaient les deux femmes fit entendre ce roulement si facile à reconnaître d'une voiture de voyage élégante. Les deux dames avaient demandé qu'on enrayât à la descente de Bouron et le valet de chambre qui se trouvait derrière fit arrêter la berline. En ce moment, Lucien s'avança. « Clotilde » cria-t-il en frappant à la glace. « Non !» dit la jeune duchesse à son amie. « Il ne montera pas dans la voiture et nous ne serons pas seuls avec lui, ma chère. Ayez un dernier entretien avec lui, j'y consens. Mais ce sera sur la route où nous irons à pied, suivis de Baptiste. La journée est belle, nous sommes bien vêtus, nous ne craignons pas le froid. La voiture nous suivra. » Et les deux femmes descendirent. « Baptiste, dit la jeune duchesse, le postillon ira tout doucement, nous voulons faire un peu de chemin à pied et vous nous accompagnerez. » Madeleine de Mortsauf prit Clotilde par le bras et laissa Lucien lui parler. Ils allèrent ensemble jusqu'au petit village de Grès. Il était alors 8 heures et là, Clotilde congédia Lucien. « Eh bien, mon ami, dit-elle en terminant avec noblesse ce long entretien, je ne me marierai jamais qu'avec vous. J'aime mieux croire en vous qu'aux hommes, à mon père et à ma mère. On n'a jamais donné de si fortes preuves d'attachement, n'est-ce pas ? Maintenant, tâchez de dissiper les préventions fatales qui pèsent sur vous. » On entendit alors le galop de plusieurs chevaux et la gendarmerie, au grand étonnement des deux dames, entoura le petit groupe. « Que voulez-vous ? » dit Lucien avec l'arrogance du dandy. « Vous êtes monsieur Lucien de Rubempré ? » dit le procureur du roi de Fontainebleau. « Oui, monsieur. » « Vous irez coucher ce soir à la force, » répondit-il. « J'ai un mandat d'amener décerné contre vous. »« Qui sont ces dames ? » s'écria le brigadier. « Ah oui, pardon, mesdames, vos passeports, car monsieur Lucien a des acquaintances, selon mes instructions, avec des femmes qui sont capables de... » « Vous prenez la duchesse de Lenoncourt pour une fille ?» dit Madeleine en jetant un regard de duchesse au procureur du roi. « Baptiste, montrez nos passeports !»« Et de quel crime est accusé monsieur ?» dit Clotilde, que la duchesse voulait faire remonter en voiture. « D'un vol et d'un assassinat, » répondit le brigadier de la gendarmerie. Baptiste mit mademoiselle de Grandlieu complètement évanouie dans la berline. À minuit, Lucien entrait à la force, où il fut mis au secret. L'abbé Carlos Herrera s'y trouvait depuis la veille au soir. Paris, juin 1843.